Satsang, le syndrome de l'écureuil. Il existe un syndrome dont l'être humain souffre. C'est le syndrome de l'écureuil. Vous connaissez tous l'écureuil, ce petit rongeur qui vit dans les arbres, et vous connaissez tous son habitude. L'habitude de l'écureuil, c'est d'amasser des provisions pour l'hiver, glands, noix, noisettes et autre chose. Il amasse et planque dans des endroits divers et variés le nécessaire pour l'hiver. Eh bien, l'être humain est un peu pareil. Il a cette manie de l'accumulation. Pour certains, c'est pathologique. On a tous vu de ces gens dont les jardins sont pleins de trucs. Il y en a partout. Et leur maison, c'est pareil. On ne peut pas y marcher droit, obligé de contourner des empilements et objets divers pour aller de la chambre au salon. L'être humain accumule, et il n'accumule pas forcément, pas seulement les biens matériels. Il peut accumuler les souvenirs aussi. Il peut accumuler les concepts, il peut accumuler les conquêtes amoureuses, il peut accumuler l'argent, il peut accumuler les points dans les commerces, les miles en avion. Il aime bien accumuler, l'être humain. C'est inhérent à sa nature. Il a peur de manquer. Alors, quand il s'agit de la spiritualité telle que nous la vivons sur la voie, et sans doute sur d'autres voies, par exemple dans le bouddhisme, le jaïnisme, il veut accumuler les bons karmas pour son incarnation suivante, avoir une belle et agréable vie. Il naîtra homme dans une famille riche d'un pays tempéré. Je dis qu'il naîtra homme parce qu'en Inde, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le prémi, entre parenthèses amoureux de Dieu, le disciple, le pratiquant, que peut-il accumuler? Il n'y a rien à accumuler. Que peut-il accumuler? C'est compliqué parce qu'il a envie d'accumuler comme son penchant l'y pousse. Dans une religion, une voie spirituelle, où la jnana n'est pas une connaissance non apprise, une connaissance révélée, une connaissance infusée de l'intérieur jusqu'à la surface de notre conscience par la communion avec le Tao, comme disait Lao Tzu, eh bien, quand la jnana, la connaissance, est considérée par ce pratiquant comme les connaissances que l'on trouve dans les livres, le Ramayana, les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, etc., eh bien il lit et accumule des connaissances sur le sanskrit, sur la Trimurti, sur les chakras, sur les techniques de pranayama, les déités, toutes sortes de choses. Il accumule toutes sortes d'informations comme si, au bout d'un moment, sa tête pleine de savoir, comme les swamis, comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi, il allait être meilleur, il allait réussir sa vie spirituelle. Eh bien, c'est faux. Le disciple qui a un minimum compris ça, que peut-il accumuler? Que peut-il mettre de côté? Il ne peut pas mettre de côté le Saint-Nom. Il n'en a pas besoin. Le Saint-Nom est là tout le temps. Il est disponible immédiatement chaque fois que l'on cherche à en profiter. Dès que l'on veut profiter de l'état d'intense satisfaction où nous met la conscience de sa présence en nous, il suffit de méditer, il suffit de revenir à la voie. Le Saint-Nom est toujours là. Quand on veut se connecter à Satchitananda, entre parenthèses le royaume, on le fait tout de suite. Ce n'est peut-être pas toujours une expérience remarquable comme celle décrite par l'obscent grand-pa quand il raconte qu'on lui a ouvert le troisième œil à l'aide d'un trocard enfoncé dans son front, mais ce n'est pas un fantasme, la béatitude. Alors on peut en être très conscient, moins conscient, ou un tout petit peu conscient, qu'importe. Ça ne change rien à la béatitude, elle est là, entière. Elle est toujours à 100% de ses capacités. Et selon le pourcentage de l'attention que vous lui portez, vous aurez une part de béatitude plus ou moins importante. Plus vous serez concentré, plus vous ressentirez cette perfection. C'est vrai qu'au début, quand on médite sur le Saint-Nom, entre parenthèses, ou verbe, en méditation formelle ou dans le service, on atteint une phase après dharana, entre parenthèses, phase de concentration, où on a l'impression qu'il n'y a rien, un peu comme le début de dhyana, entre parenthèses, méditation profonde. C'est le vide, le silence. Juste après, il y a la béatitude, il y a le sourire intérieur, il y a la vérité qui nous occupe, qui nous éclate de l'intérieur. Dans la poitrine, il y a une grande paix. Et ça, on ne peut pas l'accumuler. On ne peut pas thésauriser la béatitude. Vous savez, l'habitude d'accumuler des êtres humains se manifeste aussi dans l'informatique. Êtes-vous les tenants du cloud ou êtes-vous les tenants du disque dur? Dans le cloud, on peut tout trouver, sauvegarder. On n'a pas besoin de télécharger d'applications, on les trouve en ligne. Il y a des gens qui ont besoin de posséder, de les garder et de les mettre dans des boîtes. C'est pareil avec la voix, avec l'amour de Dieu, avec la béatitude. C'est tout le temps là et il ne tient qu'à nous de nous connecter. Le signal de Dieu. Il y a un signal Wi-Fi très puissant, mais pas toxique du tout, rassurez-vous. Et en nous, il y a le récepteur fait de la même matière, le hardware et le driver fait pour recevoir ce signal, cette énergie divine qui fait que notre corps reste vivant, debout, et que son cœur bat, que ses poumons se remplissent et se vident d'air. Il y a juste à fermer les yeux et à méditer. Entre parenthèses, quand on connaît la technique de méditation. On peut aussi pratiquer la technique à travers tous les faits et gestes de la journée par le service. Dès que l'on sait que l'on est un peu parti dans la confusion d'un mental hors de contrôle, on s'arrête de faire ce que l'on faisait, on s'assied et on pratique la technique jusqu'à ce que l'on sente cette pression dans le crâne s'évanouir et cette bulle d'amour qui gonfle notre poitrine. Alors, on peut ouvrir les yeux et continuer de faire ce que l'on faisait en restant sur cette lancée dans l'instant. Le cloud, c'est l'instant présent. En restant dans l'instant présent, tout en faisant tout ce que l'on a à faire, on peut être au bon endroit à faire la bonne chose. Ainsi, on reste dans l'harmonie fondamentale du Saint-Nom, de la vertu du Tao, de Satchitananda. Quand on est en résonance avec elle et qu'on en fait partie, notre regard sur le monde et notre existence change. En nous, il y a une sorte de fantôme, le faux ego, qui oublie toujours cette harmonie. Le faux ego aime ce qui est compliqué, complexe. Il aime en nous ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas simple, ce qui est confus, intellectuel, théorique, conceptuel. Il aime les désirs et les plaisirs sans mesure. Le faux ego aime être indépendant et ne devoir rien à personne. C'est la vanité. Cette vanité se cache dans beaucoup de choses que l'on dit, dans beaucoup de choses que l'on fait dans la journée. Quand on arrive à bien identifier le faux ego, la vanité, à vraiment s'en méfier, on arrive à le faire taire. Il ne disparaît pas, mais on ne l'écoute plus. Il radote, mais on ne tient pas compte de lui dans nos actes. Et c'est ce qui compte.